Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le mardi 28 juin, dernière semaine de la saison d'Un autre jour est possible. Et depuis hier, on commence nos petits bilans. Hier, c'était le bilan littérature avec Oriane Jeancourt. Demain, on fera le bilan cinéma. Et aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la saison théâtre avec Armelle Héliot. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour.
Merci beaucoup. Bonjour.
Et en deuxième partie, je serai avec Linda Bortoletto. Et on va voyager avec elle au fin fond de l'Alaska en passant par l'Himalaya. Bref, des voyages, que des voyages. Mais si on commençait par parler de cette saison au théâtre, Armelle Héliot, alors, on peut partir avec les prix, hein, voilà, les pièces primées par l'Association professionnelle de la critique, c'est tombé la semaine dernière. Le Grand Prix est allé à une pièce qui a été très commentée sur cette antenne, Vue du pont, d'Arthur Miller, mise en scène par Ivo Vanov. Pas de surprise pour vous?
Non, c'est vrai que c'était un très beau spectacle. C'est un très beau spectacle parce que je pense qu'on va le revoir. J'ai pas bien étudié la saison de l'année prochaine de l'Odéon, mais il me semble que c'était au programme de reprendre ce spectacle. C'est toujours curieux avec Ivo Vanov, donc, puisqu'on le sait, il applique la même scénographie et la même mise en scène à différents pays et à différents comédiens. Donc, ce Vue du pont, il l'avait déjà joué aux Pays-Bas, puis il l'a joué à New York. Et puis, il l'a joué en France. Mais les comédiens ne se sentent pas frustrés.
Voilà, et c'est très fidèle au texte d'Arthur Miller. Alors, bien sûr, il y a des résonances avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les migrants d'aujourd'hui, mais lui, il est resté très proche du texte d'Arthur Miller.
Oui, et c'était très intéressant, justement, de voir, au fond, un petit peu une réhabilitation d'Arthur Miller en même temps, parce qu'il est mal aimé en France. Il est très peu joué, très rarement repris. Et au fond, il n'a pas triché, Ivo Vanov n'a pas triché avec ce texte qui était là tel quel. Et c'est étrange de voir les résonances d'un moment de l'histoire à un autre moment de l'histoire. Et comment les migrants italiens des États-Unis peuvent ressembler à ceux d'aujourd'hui.
Qui débarquent en Italie.
Et qui débarquent en Italie. Et qui maintenant, et voilà, il y a le seul changement, c'est ça. Et que c'est l'Italie qui accueille.
Réhabilitation d'Arthur Miller, le mot est bien choisi, Armelle Héliot, parce que à la rentrée, on verra un film du grand metteur en scène iranien Ashkar Faradi, où là aussi, on rend hommage en arrière-fond à Arthur Miller, puisque les protagonistes de ce film iranien jouent la mort d'un commis voyageur.
Ah, très bien. C'est une grande pièce. C'est une des rares à être reprise régulièrement, je dois dire, mort d'un commis voyageur.
Voilà, et pour revenir au théâtre, Sarah Berlin, pour la même pièce, a obtenu le prix du meilleur comédien. Vous êtes d'accord?
Oh oui, je suis contente pour lui, parce qu'il était vraiment remarquable et très heureux, en plus, de retrouver un metteur en scène qui l'a intéressé. L'été dernier, il était à Avignon, il s'exerçait déjà physiquement, il faisait le tour des remparts en courant tous les matins, alors que le spectacle ne commençait qu'à l'automne. Et on le sentait content, même si ça doit être un étrange sentiment pour un comédien, de se dire, Ivo Vanov, il a dirigé un comédien néerlandais, puis il a dirigé un comédien américain, exactement dans la même situation. Sans doute, il lui a demandé de faire les mêmes déplacements. Ça doit être quand même un peu frustrant pour un acteur.
Ouais, de savoir qu'il n'est pas l'élu.
Oui, parce que d'habitude, on sait bien, les acteurs, ils vous disent pas « je vais jouer Phèdre », ils vous disent « je vais jouer avec Patrice Chéreau ». Ils vous disent pas « je vais jouer ». Ils mettent le metteur en scène en premier et ils ont besoin du regard du metteur en scène. Même si souvent ils se disputent, souvent ils sont malheureux, souvent ils se sentent mal aimés ou mal regardés. le metteur en scène est très important pour un acteur.
Ça, c'est pour Vue Dupont. L'autre pièce, et ça aussi, c'est pas une surprise primée, c'est Qui a peur de Virginia Woolf d'Edouard Abbé. Et c'est une mise en scène d'Alain Françon.
Oui, là aussi, c'était remarquable production. Et c'est une façon, au fond, d'honorer d'abord le théâtre privé, puisque c'était dans un théâtre privé au Théâtre de l'Œuvre, d'honorer Frédéric Franck, qui a pris des risques tels qu'il a dû depuis vendre son théâtre. Et ça, c'est quand même une des mauvaises nouvelles de la saison. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de faire des efforts dans le théâtre privé, dès qu'on essaie d'aller au-delà du simple divertissement et de l'amusement, on a du mal. Mais je dois dire que Frédéric Franck, il a quand même tiré très fort sur la corde, puisqu'on a vu chez lui que des spectacles assez difficile, et qu'au fond, ce Qui a peur de Virginia Woolf était le spectacle le plus rassembleur de la saison.
Il y a eu du public, justement. Oui. Et puis, le prix de la meilleure comédienne est allé à Dominique Valadier, qui a réussi quand même l'exploit de nous faire oublier Elizabeth Taylor. Hein.
Ah oui, complètement, complètement. C'est le miracle du théâtre, au fond. On a beau avoir des références, on a beau avoir vu même d'autres mises en scène, d'autres comédiennes, on oublie tout. Parce qu'il y a une actrice exceptionnelle.
Voilà, alors pour le reste des grands moments théâtre, Armel Elio, qu'est-ce qu'il y a eu cette année?
Écoutez, je dirais qu'il n'y a pas eu le grand spectacle fédérateur, à part peut-être le Ça ira de Joël Pommerat, mais qui n'a pas été unanimement accueilli, et au fond je le comprends. Mais il n'y a pas eu le grand spectacle fédérateur, chaleureux, irradiant, de la pensée, du bonheur, de la beauté. Il n'y a pas eu ce spectacle-là. Le spectacle de Pommerat, il a rassemblé beaucoup, et beaucoup de jeunes, qui étaient très contents d'aller découvrir l'histoire très particulière de la Révolution française, telle que la raconte Pommerat. Mais au fond, c'était un spectacle assez austère. Et il n'y a pas eu, par exemple, Mouchkine n'a pas fait de grand spectacle cette année, Peter Brook n'a pas fait de grand spectacle cette année.
L'année, l'anniversaire Shakespeare a pris beaucoup de place.
On en a vu beaucoup, voilà. Ouais. Bon, il y a eu, n'oublions pas ce Roméo et Juliette, très joli de la Comédie Française. Mais au fond, à la Comédie Française, comme il joue en alternance, finalement, il y a très peu de possibilités de voir les spectacles. Alors, il va être repris, hein, ne craignons rien. Il va être à l'affiche plusieurs saisons de suite. Mais vous voyez, il n'y a pas ce spectacle. Quelquefois, il y a des années où ça existe, quoi. Tout d'un coup, quand il y avait, quand Patrice Chéreau était encore là, quand Vitesse était encore là, tout d'un coup, tout le monde allait voir le même spectacle, du public bourgeois qui peut lire Le Figaro. Au public branché des Un Rock ou de Libération, tout le monde partageait le même bonheur, a partagé le même spectacle. Il y a plus ça de nos jours.
C'est segmenté, vous voulez dire?
C'est très segmenté. C'est très 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 segmenté. Et puis surtout, les exploitations sont courtes. Hein, les exploitations sont très courtes. Donc un spectacle, ben, ça ira, ça va être repris à l'ouverture de saison à Nanterre-Amandier. Mais, et puis ça a tourné beaucoup. Puis donc beaucoup de monde le verra. Mais au fond, il y a eu quoi? Il y a eu 4 semaines pour voir Ça ira. Et si vous étiez pas réveillé à temps, ben c'était fini, quoi. Mmh. Tout était loué déjà à l'avance et tout. Ça va très très vite. Surtout avec Internet maintenant, tout va à toute allure.
Et pourtant, il y a eu quelques choix audacieux qui n'étaient pas toujours des réussites. Armel Elio, je fais allusion à tout ce qui a été proposé au Festival d'Avignon de l'année dernière. Et peut-être que même dans ce Festival d'Avignon, on risque d'avoir des surprises. C'est-à-dire l'audace de vouloir tout changer, quitte à se casser la gueule, hein, avec Olivier
Py. Ouais. Bah, Olivier Py, il faut le dire, même s'il ne veut pas l'admettre, mais c'est là quand même la vérité. Son spectacle de la Cour d'honneur était raté. Mais à sa décharge, il faut rappeler que ça devait être justement en ouverture cette année-là, le spectacle de Pommerat sur la Révolution française. Mmh. Et puis qu'il a eu peur, hein, il a eu raison, parce que la Cour d'honneur, c'est très casse-gueule. Donc, c'est vrai que l'année dernière, pareil, il n'y a pas eu de spectacle exceptionnel à Avignon.
Et ça donne le là pour l'année ensuite?
Non, parce que il y a eu quand même, par exemple, mais c'était le premier jour à 15h. et ça a joué trois fois. Des arbres à abattre par Christian Loupa, c'était extraordinaire. Mais c'était à la Fabrica, c'est-à-dire quand même enfermé, alors qu'Avignon appelle plutôt le ciel étoilé, la nuit, un peu de vent, un peu de fraîcheur dans la nuit, enfin... Ça appelle quand même l'extérieur, Avignon. Là, c'était enfermé, ça s'est joué que très peu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas pareil. C'est drôle, il faut que j'arrête de dire pareil. De la même façon, il n'y a pas eu de grand spectacle fédérateur, voilà. Si je me souviens bien.
Est-ce que vous avez...
Et cette année, ouais. On va voir. Il y a quand même les damnés dans la cour d'honneur. Ouais. Et puis, il y a le gros risque que prend le jeune Julien Gosselin, qui, il y a 2 ans, avait présenté les remarquables, je dois dire, particules élémentaires, d'après Houellebecq, très adaptées, très choisies, très marquées. Là, il a pris ce roman de Roberto Bolaño,
ouais.
Le Chilien qui est mort depuis, qui s'appelle 2666, un énorme roman, qu'il a adapté. Ça sera un très long spectacle d'une 10 heures. Voilà, ça c'est un risque, mais intéressant.
Voilà, et s'il fallait parler maintenant des nouveaux auteurs pour terminer, parce que là, on voit bien qu'on reprend des auteurs du patrimoine, des classiques, on leur rend hommage. Est-ce qu'il y a eu cette année, pour vous, Armelle Hélio, des auteurs émergents à suivre?
Alors, je vais vous faire rire, mais l'auteur que je mettrais en premier lieu, c'était l'auteur d'un spectacle où il n'y avait pas de texte.
Ah.
Mais après tout, c'est du théâtre. C'est, vous savez, Pierre Guillois, Olivier Martin Salvant et Agathe Lullier, trois personnages extravagants, qui sont d'ailleurs encore à l'affiche au Tristan Bernard actuellement, qui ont présenté au Rond-Point un spectacle qui s'appelait Bigre. C'est l'histoire de trois personnages solitaires, les uns à côté des autres, dans leur petite chambre de bonne. Et c'était un travail absolument épatant, parce qu'on ne se rendait même pas compte qu'il n'y avait pas de parole, qu'il n'y avait pas de texte. Parce que le texte, c'était le spectacle. C'est un peu comme Pomera quand il dit « je suis un auteur de spectacle, je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur de spectacle ». Et là, c'est pareil. Et eux, ils ont, pour moi, c'est vraiment trois merveilleux acteurs et auteurs, parce qu'ils sont auteurs. Voilà. Puis autrement, on a revu des spectacles de Pierre Note. Et de la même façon, Pierre Note a fait un spectacle où, qui était en partie chanté, qu'on a vu au Rond-Point. Et là, il en a fait un autre, très original, qui s'appelle Ma belle Otarie, ou quelque chose comme ça, ou Ma chère Otarie, j'ai oublié le titre. Il a été présenté au théâtre de Belleville et il arrive à Avignon, là. Et c'est un comédien tout seul, Brice Hilleré, qui dit qui raconte, quoi. C'est un récit à la première personne d'un garçon à qui il arrive des drôles de choses dans la vie. Et c'est formidable parce que je trouve que, par exemple, Pierre Note, on le connaît depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il progresse à chaque fois et il avance dans le monde du théâtre et il écrit de mieux en mieux pour le théâtre.
C'est noté. Merci beaucoup Armelle Hélio d'être passée ce matin. Merci beaucoup. Bonne saison, bon festival d'Avignon,
oui.
Parce que vous y allez. Hein.
J'espère qu'on vous y verra.
Ouais, j'ai déjà.
Et qu'on n'aura pas trop de pluie et d'orage.
Ben, il faut prendre nos parapluies quand même. Allez, merci Armelle,
merci
très bientôt.
Merci à vous.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Linda Bortoletto, à l'occasion de la sortie de son livre témoignage de voyage édité par Le Passeur et qui a pour titre « Là où je continuerai d'être » et en sous-titre « L'appel des terres sauvages ». Bonjour Linda Bortoletto.
Bonjour.
Une brillante carrière dans la gendarmerie, puis haut fonctionnaire au ministère des Finances, une famille, un chat et l'avenir était tout tracé. Mais à 29 ans, vous avez décidé de tout quitter pour partir. partir loin, partir en Sibérie par exemple, un voyage long et lointain, un voyage qui a duré 5 ans. Alors, tout ça pour répondre à la question, avons-nous vraiment choisi notre vie ? Faut-il laisser le destin et le confort guider notre existence ? Ou c'est le désir qui doit l'emporter ? Le désir de voyager, le désir des rencontres insolites ? Accepter d'être envoûté par les charmes de l'Extrême-Orient, aller là-bas, là-bas où les espaces sont illimités, la nature sauvage, enfin se laisser guider par ses intuitions, et souvent d'ailleurs dans la profondeur du silence. Et si c'était ça, la véritable raison, s'éloigner du vacarme du monde moderne ?
C'est vrai, quand on part dans un tel voyage, donc ce voyage que j'ai qualifié d'initiatique parce que c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans ma nouvelle vie suite à
ces drames, on peut en parler aussi. Hein.
Oui, suite à la mort de mon père, où en gros j'ai pris conscience du caractère précieux de la vie et simplement du fait que je n'étais pas là où je devais être et je m'étais un peu, en quelque sorte, aliénée. Et donc j'ai décidé de revenir à mes rêves les plus profonds et en l'occurrence à des rêves de voyage, d'aventure. Et avec cette tentation d'aller au-delà des limites, d'outrepasser les limites des livres, des films, de l'imagination et d'éprouver par moi-même la nature sauvage. D'où ce choix de destination qui a été l'objet de ce premier grand voyage où je suis partie au Kamchatka, donc qui se situe à l'extrême-orient de la Sibérie, puis en Alaska. Et dans l'une et l'autre de ces régions, donc, j'ai vécu avec les peuples qui vivent.
Bah oui, mais c'est incroyable, parcourir l'Alaska à vélo, la Sibérie avec les éleveurs de rennes, ou aller fréquenter les nonnes bouddhistes de l'Himalaya. Mais comment avez-vous choisi ces destinations, Linda Bortoletto ?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette envie de silence. Alors, le fait est qu'on le découvre par la suite, parce qu'au départ, il y a une envie qui est beaucoup plus rationnelle, c'est-à-dire d'aller loin. Et moi, j'avais cette envie de me retrouver dans une nature sauvage, de découvrir réellement ce que signifiait l'adjectif sauvage, parce qu'on peut le voir, on peut l'entendre, mais finalement, est-ce qu'on peut l'expérimenter à proprement parler quand on vit dans une société aussi rapide que la nôtre, où en fait la notion d'espace a perdu de son sens. Et donc le choix de ces destinations, en l'occurrence la Sibérie, l'Alaska ou encore l'Himalaya où je me suis rendue par la suite, mais elle s'est faite sur cette envie de retrouver des régions où la notion d'espace retrouve son sens, où en fait le temps n'est plus qu'une succession d'instants, puisqu'en fait le temps on l'oublie tout simplement et on vit l'instant présent, on renoue avec son corps, on est en pleine osmose avec la nature, et c'est à travers cela qu'on apprend à renouer avec soi. Et personnellement, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi ces régions aussi reculées, mais en fait, c'est aussi parce qu'on y trouve une authenticité par rapport aux cultures et aux traditions des peuples qu'on peut rencontrer, et cette entraide, cet esprit de partage et de solidarité également.
Alors, vous avez parlé d'un drame, c'est-à-dire la mort de votre père, un père qui était pilote de chasse, qui était formé par les GIs, qui a fait les deux dernières guerres de décolonisation de l'Empire français, c'est-à-dire l'Indochine et l'Algérie. Vous a donné ce goût, hein, même si vous a eu très tardivement. Et puis, il va connaître une fin de vie pénible, hein, je rentre pas dans les détails. À quel point ce drame vous a marqué pour ce voyage ?
Et pour moi, ça a été brutal déjà, et ça a été une vraie révélation en me disant que toute la vie que j'avais construite auparavant...
C'était pour lui plaire.
Voilà, c'était, vous savez, le rapport d'une fille vis-à-vis de son père, le fait de bien travailler à l'école, d'avoir fait de belles études, une belle carrière. J'étais mariée également, et mon mari était quelqu'un de très bien, sauf que je me suis rendu compte, lorsque mon père est mort, que toute cette vie que j'avais construite, c'était non pas par rapport à moi-même, mais par rapport à lui, en fait. Parce que je ne voulais pas être un souci de plus. Mon père était fatigué par la vie, par rapport aux différentes choses qu'il avait pu connaître. Et tout simplement, je ne voulais pas être un souci de plus pour lui. Et c'est vrai que d'où cette révélation, le fait brutalement, en fait, on ouvre les yeux et on se rend compte à quel point on était aveugle. Et le premier réflexe, c'est de se dire, mais je ne suis pas cette personne-là, mais qui suis-je ? Et s'ensuit une introspection qui est assez, assez lourde.
Oui, et surtout, cette introspection, c'est aussi une quête spirituelle. Hein. Je rappelle que votre père français est de tradition catholique, mais après l'armée, il va continuer à être pilote, mais pour l'aviation civile. En Indonésie, il va rencontrer votre mère qui, elle, est de culture musulmane. Et ce questionnement de la foi est aussi au centre de ce voyage au fin fond de l'Asie.
Complètement. Et parce qu'en fait, c'est vrai que cet aspect multiculturel que je porte dans mes veines, du fait de que mon père soit français, j'ai un grand-père qui est italien, ma mère qui est indonésienne, ce mélange de deux religions, même si j'ai été élevée selon la tradition catholique, à un moment, on est totalement dans une quête de soi. Donc c'est cette fameuse quête d'identité. C'est beaucoup plus facile de savoir qui on n'est pas et qui on ne veut pas être que de savoir qui on est. Et ce rapport à la vie, ce rapport à l'existence également. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Je pense qu'on s'est tous posé la question. Et effectivement, ce voyage m'a pas donné toutes les réponses, sinon évidemment ce serait bien trop facile, mais m'a permis de faire les premiers pas et de m'offrir les premières réponses à l'ensemble de ces questions existentielles.
J'ai réappris à vivre là-bas. On n'est plus dans la peur de l'avenir, ni dans la nostalgie du passé, on est dans le présent. Est-ce que vraiment on peut se détacher des fantômes du passé, se détacher des angoisses du futur pour vivre intensément l'instant?
Ben oui, je l'affirme. C'est possible. Encore une fois, c'est compliqué. Et je vais pas dire que c'est un chemin sans obstacle. Hein. Il y a forcément des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. On alterne entre la sérénité et de nouveau des questionnements, des souffrances, etc. Et ceci étant, et notamment avec, et ça je l'ai appris lorsque j'ai vécu dans l'Himalaya avec les non-bouddhistes, avec des méthodes telles que la méditation, dont on parle de plus en plus en Occident, eh bien on se rend compte que oui, on peut se défaire de ces fantômes du passé et des craintes du futur pour simplement être dans le présent.
Et en Sibérie, qu'est-ce que vous avez appris avec les éleveurs de rennes?
Alors, j'ai appris à vivre la nature.
Ouais.
C'est-à-dire
dans ce qu'elle peut avoir de plus hostile.
Complètement, puisque le Kamchatka est l'une des régions avec l'Alaska où la densité d'ours, par exemple, est la plus importante. On a des ours en été et des loups en hiver, donc c'est très hostile.
Mais plus d'ours et de loups que d'hommes qui vivent dans cette partie du monde, non?
Exactement, et la probabilité de croiser un ours ou un loup est beaucoup plus élevée que celle de croiser un Tchouktche, c'est le nom du peuple avec lequel j'ai vécu. Et ce peuple, en l'occurrence, vit et a survécu depuis des millénaires à ce qu'il y a de plus hostile. Et c'est vrai que moi, c'était fascinant. C'est-à-dire que jeune femme occidentale, j'arrivais seule auprès d'eux. Et finalement, eux m'ont transmis un savoir qui est fabuleux, c'est-à-dire celui de vivre dans cette nature hostile, et non pas en confrontation avec cette nature, mais simplement en harmonie avec cette nature, dans l'acceptation des dangers et de tous les plaisirs qu'on peut y trouver.
Et parcourir l'Alaska? Qui plus est, en vélo, ça vous a pris quoi, Linda Bortoletto?
Alors l'Alaska, c'était une expérience différente par rapport au Kamchatka, puisque là j'étais c'était un voyage en solitaire. Je suis partie d'Anchorage à l'aube de l'hiver pour rejoindre une ville qui se situe à 1400 km au sud de l'Alaska. Donc j'ai connu les premières neiges à l'Alaska. Alors, le point positif, c'est que les ours étaient remontés dans la montagne. Et là, en fait, c'était plus une expérience avec moi-même.
Vous avez connu toutes les saisons, en plus. Ouais. Et alors?
C'est vrai que oui, dans ces régions, en 4 mois ou 5 mois, en l'occurrence, on voit toutes les saisons. Et en fait, on apprend, déjà, comme ce voyage en Alaska faisait suite à ce que j'avais vécu au Kamchatka, j'étais déjà libérée, en fait, de ces fantômes du passé, de ce deuil du père, en fait, que je portais. Et en fait, je me suis retrouvée avec moi-même, avec tout ce que les Tchouktches m'avaient transmis. Et c'est là qu'en fait, le travail de décantation de tout ce que j'avais pu apprendre a commencé à s'enclencher en moi.
Comment établir le dialogue avec l'autre? Dans quelle langue? Comment parler? Avec quelles références culturelles?
Alors en Alaska, je dirais que c'est beaucoup plus simple qu'au Kamchatka, parce qu'au Kamchatka, ils parlent et le russe et leur dialecte qui est le Tchouktchi. En revanche, en Alaska, avec le phénomène de l'américanisation, ils ont perdu tout ce qui était, tout ce qui avait attrait à leur culture traditionnelle. Et les personnes qui vivent en Alaska, la plupart parlent anglais. Alors, sachant que la plupart, en fait, sont des Américains qui sont installés en Alaska, mais il y a encore des peuples autochtones qui vivent en Alaska et qui parlent l'anglais. Et donc, forcément, j'avais aucun problème de communication avec eux, puisque bon, je parle anglais couramment. Mais ce qui est étonnant, comme on parle du langage, c'est que finalement, en Alaska, on parlait la même langue, donc il n'y avait aucune barrière au niveau de la linguistique. Mais en revanche, ce dont je me suis rendu compte, et notamment en rencontrant les peuples autochtones qui vivent sur les îles Aléoutiennes, qui sont des îles qui appartiennent à l'Alaska, c'est qu'en fait, on avait beau parler le même langage, finalement, on ne se comprenait pas. Parce qu'en fait, eux étaient complètement sous le joug de la domination américaine, et donc avaient complètement déconnecté avec leurs traditions et avec les valeurs que moi-même je recherchais. Cette quête d'identité que moi je menais, elle leur était complètement étrangère, parce qu'ils étaient complètement aveuglés par le phénomène de l'américanisation.
Et de la consommation déjà.
Exactement.
Alors, vous avez appris plein de choses de vos rencontres, Linda Bortoletto, mais qu'est-ce qu'on vous posait comme question à vous? Quelles nouvelles avez-vous apporté à ces gens-là, de notre monde à nous?
Déjà notre existence, parce que évidemment...
Ils vous posaient des questions, évidemment.
Oui, il y a beaucoup de curiosité, et si je prends, si je parle des Tchouktches, avec qui j'ai vécu plusieurs mois, c'est vrai que eux, lorsqu'ils m'ont vu arriver, ils ont ouvert les yeux grands, en me disant, mais une Française qui vient chez nous, mais c'est... Mais pourquoi? Et donc, ils découvrent déjà l'existence de personnes qui peuvent voyager très loin, qui ont le courage également d'aller vivre avec eux. Et pour eux, c'est un honneur de nous accueillir. Et après, donc évidemment, ils sont très curieux, donc ils posent des questions sur la façon dont on vit. Mais ceci étant, ils se rendent pas compte qu'on pourrait leur dire, mais en fait, c'est vous qui avez raison, vous êtes dans ce rapport au temps, à l'espace plutôt, ce rapport à la nature, et la modernité va être terrible, je peux vous le dire. Mais ceci étant, pour eux, ils sont, quoi qu'il en soit, ce cheminement vers la modernité va se faire, et tant mieux, parce qu'il y a un certain confort aussi qu'ils vont acquérir. Et pour eux, c'est quelque chose de très positif, donc ils ne se rendent pas compte, en fait, des points négatifs. Alors, cette modernité.
Très vite, deux questions. Comment on finance ce genre de voyage?
Alors, le premier voyage, en l'occurrence, j'ai eu énormément de chance. Enfin, ça fait partie de la magie de mon voyage, comme j'ai pu l'expliquer dans mon livre. C'est que j'avais une partie d'argent qui m'appartenait, où j'avais travaillé, mis de côté. J'ai eu la chance, en fait, de trouver une entreprise qui m'a soutenue pour ce premier voyage et qui me l'a financé. Et c'est vrai que depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans que je voyage dans ces régions isolées du monde, c'est une alternance entre le travail de façon très classique où je dois gagner mon pain quotidien, et je recherche également des financements auprès des entreprises. Je donne des conférences auprès des entreprises notamment.
Enfin, la viande de renne, c'est bon?
C'est très bon, contrairement à ce qu'on pense. C'est une viande très douce qui n'est pas aussi forte que du gibier tel que le sanglier. Et oui, c'est très bon.
Linda Bortoletto, Là où je continuerai d'être, l'appel des terres sauvages, c'est édité par Le Passeur. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci.
Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview en passant par franceculture.fr. Vous trouverez tout à votre disposition, le podcast ou l'écoute en ligne. Un autre jour est possible, préparé avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Bernard Laniel. Bonne matinée, à demain.